Salut à tous, c'est Jeudi Noir sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste. Et ce soir, nous allons vous présenter avec Michel, José et Pétrin à la technique. Et moi-même, livre dans une actualité éditoriale pour le coup la plus brûlante. C'est un livre qui vient de sortir d'un philosophe français, un historien des idées qui s'appelle Emmanuel Faye. Et le livre est intitulé Arendt et Heidegger, extermination nazie et destruction de la pensée. C'est chez Albin Michel. Alors c'est un livre qu'il ne faut pas être trop effrayé par le titre, hein, puisque Arendt et Heidegger sont deux philosophes, hein, donc avec des philosophies relativement sophistiquées l'un comme l'autre. quoique globalement fausse. Et en fait, le point important dans cette affaire, mais donc j'ai laissé la parole à Michel qui tient le mic ce soir, tient surtout en fait à ce que nous enseigne le contexte hein, de ces le contexte historique des relations entre ces deux philosophes, donc Hannah Arendt et Heidegger. Arendt étant une des ayant construit toute une réflexion sur la démocratie et sur le retour éventuel et souhaitable à une démocratie plus active et plus investie de la part des citoyens, si je résume vite. Et ayant été une étudiante du second, à savoir Heidegger, qui lui alors a été pendant très longtemps une espèce de pape intouchable hein, de la philosophie existentialiste, notamment en France, mais qui avant toute chose, il faut quand même le rappeler, a été un adhérent, puis un dignitaire, si on peut le dire comme ça, un dignitaire académique en tout cas, du régime nazi, puisque il a adhéré au régime nazi, resté fidèle à ça jusqu'à la fin, et qu'on découvre petit à petit, mais déjà depuis pas mal d'années, mais de manière de plus en plus claire, qu'il a en fait construit une philosophie non seulement très sophistiquée et très existentialiste et très tout ce qu'on voudra, mais une philosophie profondément antisémite, avec une espèce de vernis métaphysique très 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 compliqué et très chic. Pour en fait justifier assez largement, mais dans le champ philosophique et avec des catégories métaphysiques, c'est possible, le projet d'extermination mis en place par Hitler et les nazis en Allemagne. Alors le paradoxe, et je vais terminer juste sur cette présentation, c'est que en plus du reste, Arendt est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le totalitarisme, qui est d'origine juive, Arendt, et que elle a donc critiqué aussi bien le totalitarisme nazi que le totalitarisme stalinien. Donc on a quelque chose comme un paradoxe. Donc tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur cette espèce de relation qui a été très 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 poussée et la fidélité d'Arendt jusqu'au bout à ce philosophe nazi qui était Heidegger.
Bon, t'as presque tout dit. Je suis foutu. Okay. Donc bon, on va dire deux trois choses sur Heidegger, parce que je crois qu'en dehors de la philosophie, il n'est pas nécessairement toujours très connu. Et il a une place, il occupe une place assez particulière dans la philosophie, et pas seulement dans la philosophie française, mais aussi dans la philosophie allemande. C'est un héritier, a priori, enfin c'est un élève, sinon un héritier d'un grand philosophe allemand qui s'appelait Edmund Husserl, qui était juif lui aussi, et que Heidegger n'a absolument pas soutenu d'ailleurs quand les nazis sont arrivés au pouvoir, et alors que ses deux fils avaient fait la première guerre, enfin bon bref, Heidegger l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Mais Heidegger, donc dans la philosophie française, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a influencé des gens comme Sartre, comme Lévinas, qui avait suivi ses cours en Allemagne à l'époque, comme Maurice Blanchot, comme Jacques Derrida, Michel Foucault, un peu plus tard aussi Finkielkraut, BHL aussi, qu'il le soutient quand il est attaqué. C'était quelqu'un qui... Tikkun aussi, oui, la bande de Coupa, de Julien Coupa, donc voilà, on balance des noms. Et donc on se marre à la technique. Et donc, voilà. Et alors, ce qui est formidable quand même, c'est que toutes ces figures, que ce soit Sartre, Lévinas, Blanchot, Derrida, Foucault, pour Finkielkraut et BHL, c'est un peu plus clair, mais c'est qu'il y en a beaucoup parmi eux qui se sont présentés comme des philosophes de gauche, voire d'extrême gauche. Et alors que Heidegger est un philosophe, qui n'a pas caché, au moins dans un premier temps, après c'est plus compliqué, après 45, mais qui dans un premier temps n'a pas caché son nazisme. C'est assez étonnant parce que, bon, il faut revenir un petit peu sur l'histoire du truc. Je vais présenter le bouquin d'Emmanuel Faye en revenant un petit peu sur cette espèce d'affaire Heidegger qui occupe la France, et presque seulement la France, parce que dans d'autres pays, ils sont un peu plus au courant que nous. C'est que Heidegger, comment est-ce qu'il est rentré en France, d'une certaine manière? Comment est-ce qu'il est devenu célèbre en France? Bon, Sartre avait commencé à défricher un petit peu le terrain. Mais après 1945, Heidegger est complètement cramé en Allemagne. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est un nazi convaincu, qu'il a milité de manière très très active en faveur du régime national-socialiste.
Notamment au sein de l'université.
Alors ça, je vais y venir après, ouais. Parce que c'est pas seulement. Ça, c'est un truc qui, tu vois, ça va être un truc assez compliqué en fait. Non, pas compliqué, mais où les heideggeriens français jouent un rôle complexe. Il y a un type qui s'appelle Jean Beaufret à l'époque, dans les années 40, qui est prof de philo en France. Alors à l'époque, il n'est pas encore prof au lycée Condorcet de Paris, je crois, mais il va réussir à, en quelque sorte, faire blanchir Heidegger de son nazisme en le mettant en contact avec René Char, le poète surréaliste qui a aussi un passé de résistant absolument sans tache. Et donc Char qui, alors ça c'est, je me suis jamais penché sur la question, comment est-ce que René Char a pu se laisser embrigader avec un type comme Heidegger, je sais pas, c'est un ami de Beaufret, et en fait Heidegger va se servir de Beaufret et de René Char pour se refaire une réputation de philosophe, poète, grand penseur de l'éternité, complètement apolitisé. Parce que il y a de ça, grâce justement, aux rencontres. Alors c'est des rencontres qui sont, qui sont ultra documentées parce que tous les Heideggeriens en ont fait leur gorge chaude. Qui sont les rencontres du Thor. Alors le Thor, c'était dans le bled de René Char. Il y avait la nature, un petit ruisseau, des trucs qui chantaient. Il y avait pas de montagne de cadavres juifs ou de ciganes ou communistes ou homosexuels. C'était propre, quoi. Et il y avait la nature, indépendamment de la technique. Et ce qu'il faut voir, c'est que les élèves de Jean Beaufret ensuite, alors aussi là, François Fédier, François Vezin, maintenant un des élèves du deuxième, France Lanor, ont perpétué une illustration et défense du heideggerianisme en France jusqu'à aujourd'hui. Et alors le truc très rigolo, c'est que ces types-là, font des traductions bizarres, qui sont soit incompréhensibles, soit étonnantes par rapport à la version originale allemande. Par exemple, François Fédier a réussi à traduire le discours du rectorat prononcé en 33. À l'intérieur, il y avait le parti national-socialisme. National-socialiste, et lui, il a réussi à traduire ça par le mouvement social-national. Parce que Heidegger ne pensait pas exactement aux nazis, en fait, quand il prononçait tous les mots qui composaient le truc des nazis. Et c'est que des coups comme ça. Ouais, Beaufret aussi, il a traduit un mot, alors j'ai oublié, c'était... Genre le mot, c'est, doit être purification, il a traduit par éclaircie. Bon, et tout est comme ça, en fait.
L'éclaircie ethnique.
C'est l'éclaircie de l'être. Alors bon, c'est invraisemblable. Alors bon, et ce qui est très très drôle,
au départ, ouais. C'est que la langue d'Heidegger d'elle-même, oui. Au départ, est parfaitement ésotérique. Hein. C'est oui. Quelqu'un qui utilise des possibilités en allemand, c'est-à-dire de construire des mots à rallonge en usant de tirets de liaison de manière complètement abusive. Donc en allemand, c'est déjà pas simple.
Oui. Alors, mais en fait, il semble que les traducteurs, alors nous on n'est pas germanistes, enfin moi pas, mais les germanistes qu'on connaît nous disent que les traductions sont en fait encore pires.
Encore plus ésotériques
que le texte original. Ouais. Et les germanistes, eux, préfèrent lire Heidegger quand ils veulent le lire. Ils préfèrent le lire en allemand parce que, bon déjà c'est dur à piger, mais alors dans la traduction c'est encore pire. Et moi j'ai tendance à penser, alors peut-être que là vous allez me traiter de complotiste, mais tendance à penser que, en fait il y a eu une occultation quasiment volontaire des textes de Heidegger. Ils l'ont rendu illisible pour conserver une espèce de monopole symbolique sur la pensée heideggerienne. Mais bon, il le laisse en gros aux gens informés. Et alors, parce que, en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les œuvres complètes de Heidegger sont en cours de publication, que la publication de ces œuvres n'est pas scientifique, parce que c'est Heidegger qui l'a mise en place avant de mourir, et que tous les textes sont publiés quasiment sans apparat critique. C'est-à-dire qu'on n'a pas la trace des différentes versions des textes. Or, comme Heidegger a largement modifié certains textes, y compris les plus douteux, entre les années 30 et les années 40-50, en réalité, si vous voulez lire les textes tels qu'ils ont été publiés à l'origine, vous aurez beaucoup de mal. Parce que dans l'édition actuelle, l'œuvre des éditions complètes qui n'est pas scientifique, vous n'avez pas les textes tels qu'ils ont été écrits, en fait, vous n'avez pas les différentes versions. Alors pour vous donner un simple exemple, il y a un texte où Heidegger, par exemple, salue la motorisation de la Wehrmacht comme un événement métaphysique. Et ça, c'est dans les années 30 ou 40, je ne sais plus, peut-être 42, j'ai oublié, peu importe. Après 45, tout d'un coup, ce texte se transforme en condamnation de la technique qui a produit les millions de morts que l'on sait. Donc, en quelque sorte, inversion totale de... Alors ça, c'est justement, c'est Emmanuel Faye qui le met en avant dans un texte qui a été voué aux gémonies par les Heideggeriens. C'est un texte que je vous recommande. Alors, c'est un peu gros, mais ça s'appelle l'introduction du nazisme dans la philosophie. Ça date de 2005. Bon, on lui a chié dessus abondamment, Emmanuel Faye, à cause de ce livre. Où en fait, bon, bah, il...
Alain Badiou également.
Alain Badiou, ça j'allais y venir. alors que je trouve que, ben, pour le coup, même si je suis pas toujours d'accord avec Emmanuel Faye, ça reste un bon livre. Et ça, c'est un livre très très informatif dans lequel, si jamais ce genre de truc vous intéresse.
Le titre, peut-être, tu rappelles.
Ouais, je le rappelle, c'est l'introduction du nazisme dans la philosophie. Ouais.
Tu peux peut-être dire deux mots aussi sur le protocole d'édition qui a été prévu par Heidegger au moment de sa mort, c'est-à-dire l'ordre de succession
alors
des textes.
Ça, j'allais y venir un peu après, au sujet des cahiers noirs, mais bon, un peu plus tard. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, donc là, je vous ai parlé de comment Heidegger a réussi, par une espèce de tour de passe-passe digne d'un tour de... Enfin, c'est du bonto, quoi. Où est le nazisme? Dans quel livre? Hop. Ah non, il n'y en a plus. C'est ça, la philosophie. C'est que, en France, en fait, l'affaire Heidegger est devenue une espèce de marronnier en termes de scandale philosophique. Tiens, qu'en gros, tous les 4-5 ans, tous les 10 ans, il y a quelqu'un qui sort un bouquin où on s'aperçoit qu'en fait Heidegger est encore plus ignoble qu'on le pensait avant. C'est tout, ça n'arrête pas. C'est-à-dire, là, je peux vous dire, vous avez Bourdieu qui sort l'anthologie politique de Martin Heidegger. Alors, les premiers textes sont publiés dans les années 70, l'édition définitive c'est dans les années 80.
Donc, un livre contre Bourdieu.
Hein, un livre contre de Bourdieu, où Bourdieu explique. Bourdieu explique qu'en fait Heidegger. Il utilise la sociologie pour ça. Il essaie de montrer que Heidegger a transformé en énoncé universitairement acceptable des choses qui sont basiquement nazies. C'est-à-dire qu'en gros, Heidegger rend ça présentable pour des universitaires allemands cultivés, pour éviter que ça fasse trop gros nazis qui tâchent dans la brasserie. Bon. Et alors ce livre est globalement ignoré parce que de toute façon c'est Bourdieu qui l'a écrit et c'est un sociologue donc c'est mal. Il a pas compris la grandeur de la pensée heideggerienne, le pauvre. Ensuite en 87 vous avez un Allemand, alors lui je crois que c'est celui qui est à peu près le plus détesté, qui s'appelle Farias, Victor Farias, qui publie un bouquin qui alors en France s'est publié en 1987 qui s'appelle Heidegger et le national-socialisme, où Farias balance tout un tas de documents. Alors là ça fait un peu plus tâche parce que c'est pas un sociologue. Et il balance des documents. Alors, de façon assez amusante, c'est Jacques Derrida, donc grand philosophe de gauche français, juif aussi, qui va prendre la défense de Heidegger en disant que Farias n'a pas lu Heidegger, qu'il n'a pas compris la grandeur de la philosophie de Heidegger, et que Heidegger reste son contre-maître à penser, qui n'a fait que cautionner le nazisme lors d'une espèce de... Voilà, grosse bêtise, quoi. Ok. Mais déjà, on apprend deux, trois choses rigolotes. Alors bon, Heidegger, par exemple, quand son maître Husserl, qu'il avait placé à l'université, et viré l'université, alors que Heidegger, lui, est déjà bien vu des nazis, Heidegger ne lèvera pas le petit doigt pour le protéger. Absolument pas. Il le laisse. Et il y a même la femme de Heidegger, qui alors elle est une nazie totale, qui dira quelque chose à la femme de Husserl, elle lui dira un truc du genre, on comprend que, bon, vous avez vos fils qui ont fait la guerre de 14 pour l'Allemagne, tout ça, mais comprenez que du point de vue des Allemands, ce qui vous arrive est relativement normal. Quelque chose de cet ordre dans une lettre privée. Enfin bon, c'est la femme de Heidegger qui donnait Mein Kampf aux étudiants que Heidegger avait attiré dans sa hutte pour faire du ski dans la forêt noire afin de se ressourcer auprès de la nature. Enfin bon, bref.
Étudiante et étudiante juive, juive dont il était assez...
assez fondu assez, aussi, assez, oui. Assez fondu, enfin bon. Peu importe. Là, on va y venir après. C'est aussi assez grandiose. Alors en 2005, vous avez aussi un autre scandale. C'est Emmanuel Faye qui publie donc l'introduction du nazisme dans la philosophie. Donc alors lui, on l'a accusé de tout. C'est un procureur. Essentiellement, c'est ça qu'on dit des gens, c'est un procureur qui ose dire que Heidegger est nazi. Bon, et qui en plus, alors là, ça touche à un autre problème, mais ça j'y arriverai après, mais bon. Et alors, le truc rigolo là qui est sorti récemment, c'est un truc publié par Heidegger lui-même, en fait. C'est ce qui s'appelle les cahiers noirs, et alors les cahiers noirs, là, ça vaut le pompon, c'est ses journaux intimes. Parce qu'il était un peu graphomane, il écrivait tout le temps. Et il a écrit ça pendant des années. Et quelques années avant de mourir, il a établi un ordre de publication de ses œuvres complètes. Sachant qu'il a fait en sorte que ses héritiers aient le contrôle absolu des textes et des documents, afin qu'ils ne soient absolument pas accessibles à une recherche scientifique philologique. Et dans les cahiers noirs, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, on trouve différentes remarques, mais en partie quelques remarques quand même qui sont d'un antisémitisme absolu, où Heidegger fait, parle de juiverie mondiale, qui domine le monde, qu'il faut purifier et tout et tout. Bon, il y a aussi deux, trois perles, ça, j'ai envie de les mentionner parce que quand même ça me fait rire. Il faut savoir que Heidegger a été croyé quand même à la numérologie, et qu'il pensait que son œuvre deviendrait célèbre, alors je ne sais plus trop quelle date, parce que moi la numérologie ça m'échappe, je suis trop bête, et que globalement il y avait une espèce de pouvoir mystique des chiffres, il croyait aussi au pouvoir mystique des lettres, c'est-à-dire que par exemple il était très très impressionné par le fait de partager la même année de naissance que Hitler, et il pensait que les noms qui commençaient par H recelaient une puissance particulière, donc il y avait Héraclite, Hitler et Heidegger, entre autres, et Hegel aussi. Et donc c'est
enfin, Alain Badiou,
bon,
moi, Alain Badiou, bon, je suis la technique.
Bon, je suis peut-être
ça manque de sérieux.
Oui, ça manque de hache. Et donc bon, alors moi je suis peut-être un rationaliste borné, mais j'ai beaucoup de mal à prendre quelqu'un au sérieux à partir du moment où il croit à la numérologie ou au pouvoir mystique des lettres. Bon, alors bon, on me traite de fasciste en régie, mais voilà, moi je peux. Enfin, un type qui dit les chiffres, c'est d'un pouvoir mystique caché, et le fait que mon nom commence par H me désigne comme un grand homme. Enfin bon, non, je peux pas y croire.
Et peut-être dire deux mots quand même, ouais, sur l'espèce de d'habillage philosophique et spéculatif que va prendre l'apologie de l'extermination des juifs quand même, et qui apparaît de manière assez claire du coup dans ce dernier texte là que t'as mentionné, qui était prévu comme une espèce, comme la cerise sur le gâteau, oui, hein, en fait, des éditions d'Heidegger. Il faut bien voir que bon, et ça c'est après la guerre, donc effectivement il a déjà fait son entreprise de camouflage, de falsification de ses propres textes, puisqu'il n'y a pas,
d'autres
à défaut, hein, les livres en circulation sont majoritairement des faux, qui ont été repris et sans, effectivement, sans appareil critique et sans possibilité de vérification de la construction des textes. Et cette cerise sur le gâteau, il faut quand même le voir. Alors, tu as effectivement des délires de numérologie qu'il y a derrière, mais tu as une version encore moins folklorique qui est en fait l'idée de se donner un temps de maturation pour un projet qui est celui du Grand Reich et de l'extermination des Juifs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un contretemps avec la défaite d'Hitler et avec le suicide d'Hitler, mais le projet en cours, il aura lieu, il doit avoir lieu, et Heidegger donne les catégories et les outils et les textes et la métaphysique et la philosophie qui est censée, voilà, expliquer ce qui est en cours. Donc il y a cette idée d'une espèce d'édition étalée comme ça sur près de 50 ans, avec l'idée que après une claque pareille, effectivement, et la défaite d'Hitler, bon, raisonnablement, on peut effectivement jouer carte sur table d'ici une cinquantaine d'années. Ça sera après sa mort, ça sera effectivement après une publication par étape et un espèce de dévoilement progressif de la stratégie, mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Hein. Alors ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, on va pas entrer dans le détail des distinctions heideggeriennes, parce que là, on
va peut-être passer un peu de musique avant.
Oui, on peut faire...
Parce que d'abord, vous avez entendu les Heideggerl, Feldwan, et là, vous pouvez entendre Saltwort, This is the thinking bring doom. Ça dure 4 secondes, ça. C'est José. Et après, vous avez les pseudo-intellectuals as fuck. Et you can run, but you can't hide a girl. Bon, on va passer de la musique et puis après.
Un petit teasing sur les premières distinctions heideggeriennes pour la deuxième partie de l'émission.
Being that you have not died, I'm sure it suits you fine. Surprise, surprise, oh, you can run, but you can hide, girl, smart Nazi scum.
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération Anarchiste. Et ce soir, Michel nous présente un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Arendt et Heidegger, qui vient de sortir chez Albin Michel. Ce titre est Extermination nazie et destruction de la pensée. On était en train de, dans la première partie de l'émission, de rappeler un petit peu l'historique du débat des débats un peu incessants et récurrents qui existent maintenant depuis pas mal d'années autour de Heidegger, qui a longtemps été présenté comme un des plus grands philosophes du XXe siècle, voire le plus grand philosophe du XXe siècle, notamment par Alain Badiou ou d'autres. Et en fait. Bon, je fais une petite succède sur Alain Badiou, mais c'est taquin, hein, en fait. Voilà. Donc, tu rappelais un petit peu quelle était l'ampleur des découvertes progressives qui avaient été faites sur l'œuvre de Spencer-là, qui est donc un cas d'avoir été un militant nazi convaincu et dont on découvre au fur et à mesure dans ses propres textes, dont l'édition a été comme ça différée, qu'il aura assumé ça et il aura cru en projet de domination de la race aryenne et d'extermination de la juiverie internationale, comme on disait dans ces cercles-là, jusqu'à sa mort.
Qui est en 76, il meurt très très vieux, lui.
Ouais, de sa belle mort, si on peut dire. Et juste avant la pause, là, je disais qu'il fallait peut-être en dire rapidement, avant d'en venir peut-être au bouquin proprement dit et aux relations avec Hannah Arendt, qui est encore un autre dossier, là. Peut-être en quelques mots, résumer la manière dont le projet philosophique d'Heidegger de retrouver un rapport direct à l'être, après qu'il ait été occulté par les temps, comme on le traduit parfois, au fond, est non seulement compatible, mais est une espèce de théorie très abstraite et très sophistiquée d'extermination des Juifs et de la culture juive et de l'apport de la pensée juive.
Ce qui est assez compliqué là, c'est que, en fait, on s'est aperçu, en gros, les Heideggeriens français que je vous ai cités ont une stratégie de défense de leur maître qui était axée sur deux choses, qui était axée sur le côté erreur temporaire. Alors, ce que avait dit Heidegger, c'est en gros, c'était une grosse bêtise. Alors après, il faut revoir le contexte, parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu le contexte, on aperçoit que cette grosse bêtise, elle est pas, c'est pas une question de principe, c'est une question de stratégie. Et puis d'autre part, ils sont aussi appuyés sur l'idée de la pureté de la philosophie, et de la grandeur de la philosophie heideggerienne, qui ne pouvait pas être compromise par cet engagement temporaire, soi-disant, auprès du parti nazi, parce que cette philosophie était antérieure, en gros, à l'engagement. Étretant, c'est publié, je crois, en 1927. L'engagement de Heidegger dans le parti nazi, c'est le 1er mai 1933. Et donc, il y avait toute une défense qui était fondée là-dessus. Et le souci, c'est que les chercheurs un peu sérieux et pas heideggeriens se sont rendus compte en épluchant ce qui pousse les textes auxquels ils avaient accès, parce que c'est assez compliqué d'avoir accès aux textes, aux correspondances, et tout un tas de choses sur lesquelles les exécuteurs testamentaires de Heidegger veillent extrêmement jalousement.
Et juste, pardon de te couper, oui, juste, c'est pour que les auditeurs comprennent bien quels sont les thèmes qui, effectivement, les thèmes développés chez Heidegger et qui ont fait un peu la séduction aussi du truc.
Donc, il part, en gros, dans Être et Temps, il va partir d'une espèce de distinction qui va marquer beaucoup les intellectuels, enfin les philosophes du XXe siècle. Il dit, voilà, en gros, la philosophie rationaliste, parce que c'est un projet de guerre contre la philosophie rationaliste, ça c'est très clair aussi dans la correspondance de Heidegger, la philosophie rationaliste a raté l'essentiel, et l'essentiel c'est quoi? C'est ce qu'il appelle l'être. Et il le distingue de l'étang. Alors c'est quoi l'être? C'est presque indicible, l'être. Les étangs, ça va être par exemple un étang, E-T-A-N-T, ça va être une table, mettons, un être humain, la lune, toutes ces choses-là, ce sont des étangs.
Voilà. Des et objets définis. Des objets définissables.
Et il y a l'être. Alors l'être... c'est vague, moi j'ai toujours vaguement compris comme étant la façon d'être des choses, c'est-à-dire quel est l'être de l'étang. Par exemple, un panda, c'est un étang, et ben il est d'une certaine manière. Et Heidegger, donc, alors après, quel est l'être de l'étang qui est le panda, je doute que ce soit un objet d'étude de Heidegger, parce que le panda, il a plusieurs défauts, il est noir, blanc et il vit en Asie, donc c'est quand même pas très terrible pour la race pure. Et donc, je sais que c'est nul, mais. Petra. Et donc, mais je l'avais envie de la faire quand même. Et donc, parce que j'aime pas les pandas. Et donc, moi non plus. Et donc, le truc ici, c'est que, en réalité, il semblerait que tous ces termes assez sophistiqués du type l'être, Heidegger va développer, en fait, en gros, il va développer, il veut dire qu'il y a tout un tas de gens qui sont coupés de l'être,
Alors, il y a le thème, ouais. C'est celui de la technique aussi.
Ah, après, c'est plus tard oui. La technique. Mais parce que le thème de l'être, ouais. Attends, parce que le thème de l'être, en fait, il est assez important, parce que ce que sont aperçus les chercheurs, c'est que Heidegger utilise souvent, justement, énorme engagement antisémite, antidémocrate, antirationaliste, très très tôt, dès 1916, on le sait. Sauf qu'il sait que politiquement, il ne va pas pouvoir passer s'il parle clairement déjà à ce moment-là. Et il le dira dans une lettre dans les années 30, il dira « Jusqu'ici, je n'ai pas pu parler clairement, mais maintenant qu'on arrive au pouvoir, je vais pouvoir me lâcher. » Et en fait, il y a tout un tas de trucs qui montrent que l'être, c'est la patrie. Et dans ces développements de être déjà d'être étant, et en fait, il critique ceux qui n'ont pas accès à l'être, ceux qui n'ont pas de contact avec l'être.
Les apatrides.
Les apatrides. Et en fait, c'est plus ou moins de façon très très déguisée, enfin un peu déguisée, c'est les juifs.
Mais c'est pas déguisé.
C'est pas déguisé, oui. À l'époque, pour ceux qui sont au courant et qui savent lire entre les lignes.
L'apatride, c'est un lieu commun de la pensée antisémite.
C'est un lieu commun de la pensée antisémite, mais ça échappera à plein de gens. Et c'est donc cette pensée de l'être, c'est aussi une pensée de l'enracinement en fait. Mais c'est une pensée de l'enracinement, et il y a les déracinés, c'est les juifs. Et il y a aussi toute une pensée de la mort. Alors ça, il faudra, c'est assez impressionnant, parce que pour Heidegger, globalement, il va critiquer la philosophie, ce qu'il appelle la philosophie rationaliste, subjectiviste, cartésienne, qui est une pensée individualiste. Et il va dire en gros, ce qui compte, c'est l'être ensemble. Et seuls ceux qui sont ensemble, reliés à un même être, peuvent vraiment mourir.
Oui, c'est le peuple, le folk, uni par les liens du sang.
C'est ça. Voilà. Et c'est, en fait, c'est le peuple uni par la terre et le sang. Oui. Et en fait, on est déjà dans des thèmes qui sont complètement nazis. Enfin, ou complètement d'extrême droite.
Nazi,
pour le coup, c'est plus en nazi. Et alors après, la technique, ça va venir plus tard, parce que le thème de la technique, en réalité, est plutôt valorisé chez Heidegger tant que les nazis gagnent. Tant que les nazis gagnent grâce à la motorisation de la Wehrmacht et à deux, trois choses comme ça, la technique, c'est vachement bien. À partir du moment où les nazis ont perdu et où on s'aperçoit qu'en plus, ils ont massacré des millions de gens dans des camps de concentration, tout d'un coup, la technique est rattachée au rationalisme que Heidegger combattait jusqu'alors.
Alors ça, c'est un thème qu'on retrouve, mais alors constamment, chez tous les auteurs que tu as cités tout à l'heure.
Exactement. Et en gros, ce n'est pas les nazis qui sont les responsables des camps de concentration, c'est la technique rationaliste.
Oui, c'est la raison, c'est les lumières, c'est le progrès des sciences, et qui ne pense pas, et la technique qu'il applique, et qui nous détourne de plus en plus de ces fameux êtres-là, puisque, en fait, ils ont une vision instrumentale du monde, on manipule le monde, on veut simplement augmenter notre puissance, et on perd le contact, effectivement, avec le vrai sens des choses, et avec la vraie présence de l'être, et notamment, effectivement, de l'être politique qu'est, voilà, l'appartenance au peuple. Alors, peut-être, juste ça, c'est simplement pour indiquer ce qui a pu séduire, et ce qui a pu devenir aussi, une sorte, un peu, de lieu commun. Alors, pas lieu commun pour ordinaire, mais dans les discussions philosophiques, c'est des choses qu'on a retrouvées partout, effectivement, et notamment chez des penseurs de gauche ou d'extrême gauche qui auraient en principe dû avoir un petit peu de jugeote là-dessus, et puis et assumer peut-être un peu plus clairement l'héritage des Lumières en question, d'où ils sont issus. Est-ce que tu peux peut-être dire deux mots maintenant des rapports à Arendt,
parce que je voulais présenter un petit peu l'ensemble, parce que je me dis que le côté Heidegger, ouais, Arendt, en fait, c'est que actuellement c'est la pointe un peu de l'épée, mais contre ces gens d'extrême droite qui se prétendent grands philosophes. Mais ici, oui, je voudrais revenir sur deux points quand même. Ce que je disais, erreur temporaire d'après les Heideggeriens, les partisans de Heidegger, et pureté de la philosophie. On a montré que cette philosophie n'était pas pure. Et quant à le côté temporaire de l'erreur, un des trucs qu'ils ont caché, c'est qu'il a été nommé au rectorat. Alors ça, on le savait. Il a été recteur de l'université de Fribourg en 1933, et il n'y est resté que quelques mois. Les Heideggeriens ont dit que c'est parce que c'était limite un opposant aux nazis. En réalité, on a trouvé des documents nazis qui montrent que c'est parce qu'il était, il n'était pas assez diplomate. Il était trop extrémiste et il braquait les gens contre lui. Mais dans le peu de temps où il a été recteur, il a réussi à imposer le principe du Führer dans les universités. C'est-à-dire, en gros, c'était la disparition du peu de démocratie universitaire qu'il pouvait y avoir en Allemagne à ce moment-là. Ça, il a tout verrouillé, il a essayé de verrouiller. Et l'université de Fribourg était, assez centrale de ce point de vue-là. Et d'autre part, un truc qui avait été aussi plus ou moins planqué, enfin donc on ignorait, c'est que après avoir été démis de sa fonction de recteur de l'université de Fribourg, au service des nazis, il est rentré dans la commission pour la philosophie du droit, où il est resté jusqu'en 1942. Donc c'est la commission pour la philosophie du droit de l'Académie du droit allemand. Et là, il était avec des gens super sympas, comme Julius Streicher, qui était un éditeur d'un mensuel, enfin d'une revue nazie, Alfred Rosenberg, qui a publié Le Mythe du XXe siècle, qui était aussi un grand nazi, et Carl Schmitt, un juriste allemand aussi nazi. Et cette commission a eu une certaine responsabilité dans la législation de la main nazie et dans la préparation des lois de Nuremberg. Bon, et ça, il est resté jusqu'en 42 et il n'a pas été inactif. Alors ça, évidemment, les Heideggeriens n'en parlent jamais, ils parlent que du rectorat en disant « Ah, c'était la bêtise ». Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que, et j'en arrive à Hannah Arendt, c'est que vous avez, il n'y a pas que les Heideggeriens qui défendent Badiou aussi,
tu parles d'Alain Badiou
qui défendent Heidegger, la régie est en feu et se moque de moi, et donc il n'y a pas que les Heideggeriens français.
Par contre, Alain Badiou défend Heidegger.
Oui. Par contre, Alain Badiou défend Heidegger et en général, il mobilise deux choses. Il mobilise. Alors première chose. Bon, venant d'Alain Badiou, c'est pas étonnant. C'est une espèce d'argument d'autorité. C'est-à-dire que il met en avant son succès. C'est un petit peu comme pour Britney Spears. Ses morceaux ont eu des millions d'auditeurs, donc c'est une bonne musicienne. Heidegger a vendu beaucoup de livres, donc c'est un grand philosophe. Je pense que c'est un argument à la hauteur d'Alain Badiou, qui justement va dire voilà, il y a toute la philosophie française du XXe siècle existe grâce à Heidegger globalement. Donc c'est faux et c'est nul. Mais bon, peu importe. Et d'autre part, ce qu'ils vont mettre aussi en avant. Et alors là, quand même, on se demande comment est-ce qu'on peut considérer ces gens-là comme des philosophes intelligents. Ils vont dire quand même, alors pas forcément, quoique Badiou s'y a publié des trucs comme ça, ils vont dire que Heidegger n'était pas vraiment nazi parce qu'il avait des étudiants juifs et que même il avait une amante juive, Hannah Arendt. Donc là, ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen qui dit « Je ne suis pas juif, non, lui, certainement pas. Je ne suis pas raciste, mon cuisinier est noir. » C'est du même niveau. C'est-à-dire que, quand même, il a été ami avec des juifs, donc c'est pas un nazi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'avoir des arguments aussi minables, mais bon. Mmh. Et alors, Hannah Arendt, elle... elle est pas ignoble au sens où on va voir ce qu'en dit Emmanuel Fay il démolit un petit peu ce qu'elle peut raconter, mais elle s'est retrouvée, donc c'est une étudiante juive qui très tôt est consciente de l'antisémitisme qui règne dans le milieu intellectuel allemand, qui très tôt va lutter contre en partie aussi, va s'en défendre et tout. Elle va être obligée de fuir l'Allemagne nazie après une tentative ratée d'espionnage en faveur de mouvements sionistes dans les années 30, parce qu'elle est consciente que ça commence à puer. À partir de là, elle va se retrouver, elle est apatride pendant plus de 10 ans. Elle finira par avoir la nationalité américaine, presque 20 ans même d'ailleurs. Elle finira par avoir la nationalité américaine dans les années 50. Et assez étonnamment, elle a contribué à rendre Heidegger célèbre dans le monde entier. Heidegger avait été son professeur et aussi son amant, parce que Heidegger avait était évidemment un anti-libéral qui menait une vie très très libérale. Bon, il avait des tas de maîtresses, sa femme était au courant, c'était partie du truc. Alors elle a contribué à le rendre célèbre en travaillant sa traduction en anglais. Elle a publié un petit article critique à la fin des années 40, et un peu plus tard elle a publié un article apologétique qui défendait Heidegger quand Heidegger a fêté ses 80 ans. Et donc dans son livre Emmanuel Fay, dans son livre donc sur Hannah Arendt et Heidegger, elle va poser la question suivante, c'est comment le même auteur, donc Hannah Arendt, a-t-elle pu concilier à la fois la défense, ce qu'il appelle la défense hyperbolique de Heidegger, et une description critique du totalitarisme national-socialiste. Parce que une des grandes œuvres d'Hannah Arendt,
ça faut en dire deux mots.
Il faut en dire deux mots. C'est une œuvre en trois volumes, ou en trois grandes parties, qui sont consacrées à la naissance du totalitarisme. Et elle va commencer par étudier l'antisémitisme. Après, elle prend l'impérialisme et après elle prend le fascisme.
Et puis t'as le procès Eichmann.
Et puis dans les années 60, elle écrit aussi un gros bouquin. Sur le procès Eichmann. Alors Eichmann, pour ceux qui l'ignoreraient, c'était un fonctionnaire assez haut placé de l'État nazi allemand, qui globalement a géré les trains qui conduisaient au camp d'extermination. Et il s'était réfugié en Amérique du Sud après la guerre. Là, les services secrets israéliens l'ont kidnappé. l'ont amené en Israël. Il a été jugé dans un procès extrêmement médiatique qui a été intégralement filmé et dont on peut voir d'ailleurs il y a un film qui a été tiré de que j'ai pas vu qui a été tiré de ce procès fleuve. Et que fait Hannah Arendt? Ben à ce moment-là, elle part en Israël, elle va suivre le procès, elle va en tirer un gros bouquin, où elle rend pas seulement compte finalement du procès d'Eichmann et de la personnalité d'Eichmann, dont elle a une analyse très particulière, elle rend aussi compte de l'extermination des Juifs en Europe entre 39 et 45.
Et c'est de ce bouquin-là qui a été une des thèses du bouquin et qui est effectivement devenue elle aussi une espèce de lieu commun maintenant de l'analyse du nazisme, consiste à dire, c'est l'argument que produit Eichmann hein, face à ses juges, il dit mais au fond moi je suis un fonctionnaire, c'est-à-dire que j'ai pas pris d'initiative ni de responsabilité personnelle dans l'extermination, j'ai simplement géré les flux de ce qu'on appelle des unités sur des voies ferrées. Il se trouve que ces unités étaient des familles juives ou des familles d'opposants. Et il va même invoquer, alors ça c'est évidemment la cerise sur le gâteau, invoquer des grandes références philosophiques allemandes. Voilà, il va chercher chez Kant l'idée d'impératif catégorique, c'est-à-dire de devoir moral au fond. Et son idée, c'est l'argument qui est repris d'ailleurs, alors mais tel quel, par tout un tas de philosophes aujourd'hui,
par Michel Onfray,
notamment par Onfray, qui alors lui mais systématiquement tombe dans le panneau. L'argument d'Eichmann consiste à dire le devoir moral d'un fonctionnaire est de fonctionner de manière optimum. Et donc, non seulement il a avancé, alors évidemment, ça n'a pas marché face au tribunal, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est un argument de défense d'une mauvaise foi qui est à peu près absolu, et qui consiste d'une certaine manière à transformer un logisticien exterminateur en fonctionnaire moral. Et alors, Hannah Arendt restitue cet argument-là, qui lui-même ensuite, sur la base du bouquin d'Arendt, est répercuté, est restitué, est repris comme argent comptant par des gens comme Onfray aujourd'hui, qui du coup, effectivement, remet une pièce dans la machine en disant, bah vous voyez bien que le nazisme au fond, c'est pas le problème, c'est pas tellement Heidegger, quoique Onfray est pas tendre avec Heidegger, mais au fond, la vraie cible de gens comme Onfray, c'est pas Heidegger, c'est Kant, c'est les Lumières allemandes, c'est la philosophie rationaliste, la pensée émancipatrice des Lumières allemandes qui finalement aboutit à des fonctionnaires exterminateurs comme Eichmann.
Soi-disant, selon Eichmann. Il faut aussi préciser qu'Arendt, elle, ne tombe pas dans le panneau d'Eichmann.
Elle tombe pas dans le panneau.
Sur ce point-là, et elle montre à quel point il a absolument pas lu Kant et il a absolument pas compris ce que c'était que l'impératif catégorique chez lui.
En revanche, là où elle tombe un peu dans le panneau, c'est que l'interprétation qu'elle donne du procès d'Eichmann consiste à dire qu'il y a une thèse, c'est la fameuse thèse de la banalité du mal, et qui consiste à dire que finalement le mal et le nazisme, il est en chacun de nous. Il est en chacun de nous et que au fond il y a un nazi qui sommeille en chacun de nous et que il y a pas de donc ce qui est une thèse qui est comment dire très lourde de conséquences parce que d'une part elle ne déresponsabilise pas complètement Eichmann parce que effectivement elle tombe pas dans le panneau comme Onfray qui lui n'y connaît rien mais elle banalise d'une certaine manière le nazisme. Alors il s'agit pas de dire que c'est quelque chose d'incompréhensible ou d'extraordinaire, effectivement c'est une possibilité qui est présente, la preuve, mais l'idée qu'il y aurait encore une fois un nazi caché en chacun de nous, ça en même temps ça ferme toute discussion, et ça, en tout cas ça n'en ouvre aucune, sur la part de responsabilité et de choix volontaires et de démarches volontaires qui ont été faits par tous ceux qui ont milité et tous ceux qui ont travaillé aussi à la réussite relative du projet d'extermination. Et il faut voir, une des conséquences de ça, par exemple, c'était un collègue qui me disait ça, qui avait encadré un voyage scolaire à Auschwitz il y a quelques années, et qui était tombé sur un conférencier, à l'époque un historien, hein, qui leur ressortait cette même sauce, et ce, face à des élèves, en disant, mais vous savez, voilà, il y a eu une part, effectivement, de banalité dans tout ça, et au fond, les médecins nazis qui expérimentaient sur les déportés, ou les gens qui encadraient les camps, en réalité, c'est des gens qui étaient placés là, voilà, et qui ne savaient pas exactement quels étaient les tenants et les aboutissants. Or, alors, le collègue en question, un collègue de philo, est accompagné d'un historien qui, lui, a intervenu en disant, écoutez, ce que vous dites est tout simplement faux. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, sur la base des documents de recrutement, des archives, des camps notamment, que les gens qui sont intervenus, par exemple, au titre de médecin, ou par exemple, au titre voilà, sur des fonctions logistiques, n'étaient pas choisis par hasard. C'est-à-dire qu'il y avait des lettres de motivation. il y avait des lettres de motivation. Donc, alors, le coup du fonctionnaire zélé qui tenait pas les tenants et aboutissants, le coup du nazi banal qui sommeille en chacun de nous, en fait, doit être relativisé considérablement. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont fait ce choix. Alors, pas une conséquence globale des conséquences, mais avec quand même des informations plus que substantielles. Et en fait, Arendt, effectivement, si elle ne tombe pas dans le panneau d'Eichmann, qui est grossier, elle tombe peut-être dans un autre panneau, qui est celui-là, qui consiste à, finalement, à interdire de réfléchir sur la part de responsabilité, sur la part de choix qu'il y a pu y avoir aussi de la part de ceux qui ont contribué à l'extermination nazie. Et ça, c'est sur la thèse de la banalité du mal. Ça, pour le coup, c'est Arendt. Hein?
Puis en plus, cette thèse de banalité du mal, elle aboutit aussi dans d'autres, chez d'autres auteurs, à finalement une espèce d'indistinction entre les bourreaux et les victimes,
bien sûr,
qui est très très embêtante et qui fait aussi complètement l'impasse sur les processus politiques qui peuvent conduire quelqu'un à devenir un bourreau.
Exactement.
Parce que si on est tous un bourreau, mais ça on l'avait déjà vu dans une autre émission il y a longtemps, si on est tous potentiellement un bourreau, alors le bourreau qui est passé à l'acte, d'une certaine manière, est plus ou moins excusable, de la même façon que celui qui n'est pas passé à l'acte.
Pas plus coupable,
n'est pas plus innocent.
Exactement.
Que le bourreau.
Exactement.
Et c'est des thèses qui sont très très glissantes en réalité, même si elles semblent a priori un peu séduisantes.
Bah déjà elles sont fausses.
Elles sont fausses. Elles sont fausses et elles font l'impasse sur les processus de formation politique,
exactement,
les processus de propagande, la façon dont on. Et en fait, ce que montre Emmanuel Faye dans son livre, c'est que toutes ces thèses d'Arendt, elles sont présentes quasiment dès les années 40. C'est-à-dire qu'elle rend compte de deux livres. Qui parle déjà, qui de façon assez documentée, des camps d'extermination et de toutes ces abominations, et elle va déjà effacer plein de choses qui sont très significatives par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Mathias. Par exemple, dans le livre dont elle rend compte, il est fait mention de la résistance que pouvaient faire les déportés juifs quand ils comprenaient qu'on allait les liquider. C'est-à-dire que dans certains camps d'extermination, il y a eu des révoltes, il y a eu, assassiner les juifs déportés à l'arme à feu parce que ils étaient armés de bouts de bois, de ce qu'ils pouvaient, et en fait ils essayaient de se défendre par les armes. Et Arendt, dans son compte rendu, elle en fait une espèce de bétail qui se soumet docilement et
ce qui a été très longtemps la version officielle des nazis eux-mêmes.
Oui, bien même. Sûr, du type et justement Faye cite un des directeurs de camp d'extermination qui dit moi j'ai jamais pris en compte les individus, pour moi c'était des masses. Et Arendt, alors
des unités comme dit Einstein.
C'est ça, des unités, c'était de la masse. Et ce qui est amusant, ce qui est assez tragique, c'est que Arendt je pense qu'on peut vraiment pas la soupçonner d'antisémitisme ou de nazisme, va en fait reprendre tout un tas de thèses qui sont très très proches de celles des nazis, et elle les reprend souvent. Moi, ce que j'ai eu l'impression en lisant le bouquin de Faye, c'est que parfois on a l'impression qu'elle les reprend pour presque le goût du paradoxe. C'est-à-dire que elle va dire par exemple, dans les camps de concentration, personne méritait une telle mort, ce qui fait que d'une certaine manière, personne ne mérite d'être accusé de l'avoir infligé, parce que on est dans l'indicible, on est dans l'au-delà, etc., etc. C'est-à-dire qu'elle va, elle va transformer ça en une espèce de, je sais pas, de, oui, c'est même, elle parle d'enfer, et le mot enfer ici est très très ambigu. Parce que ceux qui vont en enfer, en général, c'est ceux qui l'ont mérité. Et là-dessus, d'ailleurs, Arendt reprend certaines thèses aussi des nazis qui disent que, pour aller vite, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si les juifs ont été accusés d'autant de choses par les nazis, c'est que peut-être ils en étaient en partie responsables. Et ça, Arendt le dira. Elle le redit d'ailleurs dans le bouquin sur Eichmann, quand elle parle des conseils juifs, où elle dit que les conseils juifs, d'une certaine manière, ont collaboré avec les nazis et n'ont pas vu le danger venir. Et elle en cite que quelques-uns qui ont essayé de sauver les gosses et choses comme ça. Donc là-dessus, par exemple, elle reprend de fait des thèses qu'on peut trouver chez les nazis. Alors elle les tourne d'une autre manière, elle les tourne d'une manière plus, comment dire... plus séduisante, où on a l'impression qu'en fait elle est pleine de... Enfin, et c'est sans doute le cas en plus, qu'elle est pleine de compassion et d'horreur par rapport à ce qui a pu se produire. Sauf que,
intellectuellement, ça tient pas.
Intellectuellement, ça tient pas. Factuellement, ça tient pas. Mmh. Et le truc que va essayer de montrer, je pense, Faye dans son livre, c'est que... Alors, dans un premier texte qui s'appelle Antisémitisme, qu'elle a écrit dans les années 30 à Paris, elle va accuser tout le romantisme. Elle montre à quel point l'élite intellectuelle allemande est responsable de l'antisémitisme en Allemagne. Et ça, ce qu'elle écrit dans les années 30. Et ça, c'est sans doute vrai. Et elle s'appuie sur des auteurs, des références qu'elle cite, etc., etc. Et ce qui est formidable, c'est que après les années 40, elle va essayer d'exonérer toute l'élite intellectuelle de l'Allemagne, y compris celle qui a été ouvertement nazie.
Et alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est qu'elle aura été complètement subjuguée par la rhétorique d'Heidegger.
Ce qu'elle renverse, c'est qu'en gros, dans les années 30, elle considère que ce sont les intellectuels qui ont formulé l'idéologie folkish, populiste, antisémite, qui a donné naissance au nazisme à terme. Et dans les années 40, ça va être la plèbe, c'est la foule, c'est la masse, c'est la populace. Et de ce point de vue-là, les auteurs comme Heidegger, comme Schmitt, comme Carl Schmitt dont on avait déjà parlé, comme Junger, etc., Junger qui n'était pas nazi mais qui était très proche de tous les milieux d'extrême droite, qui était même dans les mouvements d'extrême droite de l'époque,
un militant
d'extrême droite, qui trouvait parfois les nazis un peu mous, mais lui aussi il a falsifié ses textes, donc vous aurez beaucoup de mal à trouver des textes où il l'exprime clairement. Mais bon, globalement, chaque fois qu'elle va les mentionner, elle va dire qu'ils se sont fait séduire. Au sujet de l'engagement nazi d'Heidegger, elle parle d'escapade. C'est une petite escapade. Vous voyez, on imagine Heidegger en train de sautiller, je sais pas moi, dans la boue d'Auschwitz.
Comment expliquer ça, là, d'après toi, cette espèce de perte de lucidité complète et de passage à des. Parce qu'il y a aussi un travail d'abstraction, toujours. Alors, c'est ça, vrai. On l'a chez Heidegger tout le temps. Mais ça, c'est un classique chez les intellectuels en général. Et pour le coup, c'est quelque chose, c'est ça qui est particulièrement surprenant. C'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'intellectuels qui tombent dans une orbite de régime totalitaire, parce qu'on a exactement la même chose du côté des compagnons de route, de l'Union soviétique, du stalinisme, etc. C'est-à-dire qu'on présente les choses avec une espèce de rhétorique abstraite qui, du coup, déréalise tout ce qui est criminel, tout ce qui est odieux, tout ce qui est condamnable de la pratique de ces régimes-là. Donc Heidegger, alors lui, est typiquement là-dedans, mais c'est volontaire. Et c'est là où évidemment c'est abject. Dans le cas d'Arendt, on peut pas la soupçonner de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as des textes comme tu l'as dit, t'as des textes qui sont lucides, critiques et solides. Puis après, t'as cette espèce de saut dans l'abstraction qui déresponsabilise, qui atténue, qui euphémise tout ce qu'il peut y avoir de criminel et de masse en fait dans le projet nazi, et qui va effectivement aussi jouer sur les ambiguïtés que t'as dit là, effectivement sur il n'y a pas de frontière finalement nette entre la victime, le bourreau, etc. Comment comprendre ça? Peut-être que là il y a quelque chose d'assez effrayant sur justement les pouvoirs aussi d'une rhétorique, là pour le coup il n'y a pas d'autre mot, hein, comme celle d'Heidegger et précisément dans la relation qu'elle a eue avec lui. Est-ce que t'as pas justement là une espèce de perte de ça, quoi?
Je pourrais me permettre de citer Jacques Bouvresse qui dit qu'il y a des formes de bêtises proprement philosophiques, spécifiquement philosophiques. Et je crois que, d'après ce que j'ai pu voir du bouquin de Faye, que j'ai pas eu le temps de lire entièrement, et donc j'ai pas eu le temps de lire la conclusion en particulier, donc ça va être du... comment dire? J'ai le droit de le dire, les gars, ils se foutent de moi là en face. ce que j'ai pu comprendre globalement, c'est qu'en fait... elle reprend toutes les catégories, elle reprend énormément de catégories de pensée de Heidegger. C'est-à-dire qu'elle doit être séduite intellectuellement par sa philosophie, et il est fort possible, fort probable qu'elle souhaite la sauver. Peut-être qu'elle se rend pas compte de là où ça la conduit exactement. C'est compliqué. Mais globalement, ce qu'elle va dire et ce que dit Faye, c'est qu'elle construit en fait une espèce de couple. Heidegger, le grand penseur, le roi secret de la philosophie, qui a sombré un moment dans le nazisme, mais qui n'a jamais influencé et qui n'a jamais eu un cours décisif sur son déroulement, ce qui est faux. Et elle va l'opposer à Eichmann, le fonctionnaire qui ne pense pas et qui est originaire de la masse et de la populace. Et globalement, il est peut-être possible que... En gros, son idée, c'est que Heidegger pense, donc il ne peut pas être nazi. Parce que les nazis ne pensent pas.
Mais ça, t'as raison d'insister là-dessus, parce que c'est un leitmotiv aussi, c'est-à-dire le fait de dire que il peut pas y avoir de philosophie nazie.
C'est ça.
La philosophie ne peut pas être nazie.
Par définition, la philosophie est grande et pure.
Exactement.
Et donc, une philosophie nazie, c'est une contradiction dans les termes. Ouais. Et si par conséquent on admet l'idée qu'Heidegger est un grand philosophe, il ne peut pas non plus être nazi. Et c'est là peut-être qu'elle s'est faite avoir, mais c'est pas la seule, il y en a des tonnes, hein. Badiou est exactement dans le même genre de trip. Un grand philosophe ne peut pas être un grand philosophe ne peut pas être un nazi.
Il peut pas y avoir de nazisme philosophique.
Ouais, c'est ça. Alors je sais pas si Heidegger est un grand philosophe, j'ai des doutes, mais en tout cas c'était un nazi, ça c'est sûr. Donc bon, on va diffuser de la musique parce que là il y a Willy qui s'énerve, il est en train d'essayer de défendre Alain Badiou. je comprends pas pourquoi. Willy, lâche José s'il te plaît. pas de violence en studio s'il vous plaît, ça suffit. Voilà, Willy réclame le retour de Badiou. On est foutu. Bon, on espère à ne pas avoir été trop ésotérique, parce que c'est des querelles qui ont des côtés ridicules, il faut bien le dire.
Oui, mais qui ont des conséquences
qui sont assez tragiques.
Le monde intellectuel.
Voilà, donc moi je vous recommande les bouquins d'Emmanuel Faye, si c'est des thèmes, si vous avez du temps, parce que c'est des gros bouquins. Donc il y en a deux. Il y a celui qui vient de sortir, c'est donc consacré à Arendt et Heidegger, Extermination nazie et destruction de la pensée. Il y en a un autre, c'est l'introduction du nazisme dans la philosophie en 2005. Un autre qui est plus simple à lire, qui est plus court et qui est aussi très informatif, c'est un livre de François Rastier qui s'intitule Naufrage d'un prophète, Heidegger aujourd'hui. C'était publié au PUF en 2015 et c'est un bouquin qui est peut-être plus facile à lire et qui est assez mordant aussi.
On en parlera peut-être dans l'émission un de ces jours.
Voilà, au revoir.
Eyes can often give you power. Everything I see is a lie. You know, when I told you that I would never lie, well, that was the first time. Take all the pleasures that you seek, may your heart be full and still be bleak. Cold and alone, heart is stone, like a fuck when there is no one home. Ability to kill with a look in your eye, but I defy you to see through me. Nothing is all that you will see. Cats, sex, and Nazis. That's why they call me Mr. Heavy. Are you a believer? Well, I'm a deceiver, but I lied when I said that honesty was dead. Because my love is true.